petit peu. Donc, ce
Ouais,
travail était intéressant parce que j'ai aussi beaucoup
je
travaillé sur la jeune
ouais.
fille aux mains coupées.
Donc,
Donc, je le
je
répète, je suis issue de
répète,
tradition
donc
orale.
pour
Donc,
moi,
pour moi, la bord du
donc,
compte
va
va
passer
passer par
par
autre chose forcément que la réflexion au départ.
donc, c'est plutôt
Donc, c'est
des
plutôt des
sensations, des
sensations, des
émotions, mais aller dans
émotions,
la
immergées dans la
nature,
nature, etc.
etc.
Ce compte, je
J'aimerais
l'ai
travailler
travaillé il y a plus de 20
différemment,
ans.
je pense,
En tout cas, je
ça,
dis
c'est
ça,
différent.
ça fait longtemps.
Et il m'a
Et il m'a
fortement
fortement
impacté
impacté
à l'époque
à
aussi.
l'époque, si bien que je n'arrivais pas à. Je voulais absolument l'introduire dans ce spectacle, je n'y arrivais pas. Donc, c'est un des seuls contes que je n'ai pas pu compter, tellement il était puissant. Et ça m'a fortement interrogée. Mais je suis quelqu'un d'empirique, donc déjà, j'essaie de chercher par moi-même avant d'aller chercher des explications qui viennent d'autres chercheurs. Donc, j'enseigne aussi le conte en art-thérapie à l'Artec depuis plus, ça fait 22 ans maintenant. Et donc, j'ai compté ce conte au début, au premier, avant de le dire en scène devant le public, devant les stagiaires, et on faisait un retour, et j'ai constaté qu'il avait un effet foudroyant sur le public féminin et qu'il y avait des retours extrêmement émotionnels. Qui était pas toujours simple à gérer parce que moi-même je n'avais pas fait tout le chemin et c'est là que j'ai pris la mesure que j'étais une petite chose perdue dans l'univers immense du conte et que mon intellect ne comprendrait jamais ce qui est dit dans les contes. Donc là récemment en 2018, j'ai suivi des formations avec Jean-Pascal de Bayeux que je considère comme un génie, vraiment, quelqu'un qui a fait un travail sur le conte, sur le merveilleux, la magie des contes, qui est absolument extraordinaire, et qui m'a amené une lumière différente, qui n'est pas une lumière de scientifique. Je précise qu'au départ, je suis quand même, j'ai fait des études d'ingénieur, donc j'ai aussi un aspect scientifique assez développé. Et que, en lisant Botero, qui nous a dit, quand il y a une question, il y a toujours, je reprends ça, il y a toujours l'aspect du savant, la réponse du savant et la réponse du poète, ce n'est pas pour les opposer. C'est justement que le conte comporte ces deux aspects. Et là, je me suis soumise devant l'aspect poétique qui va prendre le relais et aller bien au-delà de ce que je pouvais moi-même imaginer, puisque ce conte m'avait chaviré dans les profondeurs de mon être et même de mon âme, autant que je sais qu'est une âme, mais ça allait bien au-delà de ce que je pouvais l'imaginer. Donc, à partir de là, je me suis dit. Ce compte, je l'ai retiré de mes formations parce que j'avais trop de travail, ça, c'était trop compliqué à gérer. Je vous dis ça, pourtant je ne suis pas quelqu'un qui travaille à l'économie. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, un groupe de 15 personnes chavirées à droite, à gauche, il faudrait qu'on soit, c'est comme un carrosse, il faudrait qu'il y ait un troupeau de chevaux solides. Je suis toute seule à diriger le carrosse, j'ai peut-être pas les reins assez forts pour ça. Donc voilà, ce conte, je le trouve merveilleux. Et puis, à force de discuter aujourd'hui, je commence à me dire, tiens, je comprends pourquoi. Parce que loin d'être un conte misogyne où la femme est passive, moi, je ne le perçois pas du tout comme ça. C'est d'une histoire de puissance. Et d'une puissance qui fait très peur. Alors, j'aimerais vous lire un texte de Nelson Mandela. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui parle justement de la plus grande peur de l'être humain sur cette terre. Et je vais vous demander un petit jeu. D'après vous, c'est quoi la plus grande peur que nous avons?
Notre lumière,
Exercer un pouvoir?
notre lumière,
La mort? L'amour? Être seul? Donc, il y a toutes ces questions qui arrivent et vous
mourir.
brûlez. Donc la lumière, notre peur la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur, notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas nos zones d'ombre qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être si brillant, magnifique, plein de talent, formidable? En fait, pour qui nous prenons-nous? Pour ne pas l'être. Donc, je ne vais pas tout lire tout le tralala, mais là, ça, j'ai l'impression que ça résume. C'est-à-dire que ce personnage Alors, c'est marrant parce que chacun va en faire une interprétation totalement différente. Moi, je vous donne ma version, c'est-à-dire je vais revenir sur les principes que j'avais mis au départ sur la Genèse par rapport à ces forces qu'on a dit, l'évolution, on a dit que c'était le féminin, donc c'est ce que disait le monsieur ce matin, c'est le côté réceptif, etc. C'est de se mettre en mouvement, mais dans un mouvement qui est promu par la vie et non par la volonté intellectuelle. Il y a l'intellection et qui n'est pas l'intellect, qui est analyser tout ça, qui correspondrait plus donc au savant, le premier plus au poète, parce que j'y tiens. Et puis, il y a cet égocentrisme nécessaire, le retour à soi, pour ne pas se diluer dans les autres. Mais quand ce déséquilibre, comme disait Mathilde, arrive, ben c'est là où tout va mal. Ça va mal pour nous, mais ça va mal pour l'humanité, puisque l'humanité s'est fait manger par l'égocentrisme, c'est-à-dire par le consumérisme, par le diable. Le diable que l'on retrouve dans ce conte. Et ce diable-là, c'est celui qui va dire « ça va être facile, tu n'as pas besoin de faire tout le chemin, viens, viens, ayez confiance hein. ». Donc, on le voit très bien que le meunier qui représente l'ère industrielle, puisqu'il y a un moulin, ce n'est pas lui qui va avec son pilon moudre le grain, il va faire déjà un système industriel complexe pour gagner du temps et gagner un confort. Mais il y a aussi Christophe André qui nous dit que le confort, c'est la chute de l'être humain, mais il est très contemporain, lui. Donc, voilà. Donc, déjà, ce meunier, il n'est plus dans sa force originelle. Il a commencé l'ère industrielle. Et quand on voit que Vincent Van Gogh et tous les grands peintres impressionnistes étaient désolés de voir cette ère industrielle qui était en train de massacrer la nature, déjà à l'époque, on voit ce que ça donne, même pas deux siècles après, ils avaient des intuitions très fortes. De mon point de vue, hein, tout est de mon point de vue, je ne dis pas que ce que je dis est vrai. Et donc, à partir de là, ce diable va aller, donc cet égocentrisme, comme on a vu, le serpent, hein, mais on le retrouve dans la Bible, mais ça a été détourné, mais là, c'est des choses fondamentales, originelles, c'est la Kundalini aussi, c'est notre énergie, mais si elle est tordue, elle amène tout de travers. Donc, va dire au père, écoute, c'est simple, hein, tu fais le pacte, tu donnes ton vieux pommier, là, qui ne sert plus à rien derrière le moulin, sauf que le vieux pommier est en fleur. Et le vieux pommier, ça peut être aussi l'arbre généalogique, ça peut être aussi tout l'héritage des ancêtres, ça peut être aussi tout ce qui est encore en vie, même si la forme est usée. Et lui, il est prêt à le sacrifier, tout ça, pour avoir un peu plus de confort. Et il y a sa fille qui balaye avec son balai de sauge. La sauge, c'est un symbole très fort, pas de sauge, de sol. C'est un symbole très fort, hein, un symbole de la purification, etc. Donc, en fait, il vend sa fille au diable pour pouvoir être plus tranquille. Est-ce que c'est pour céder à ses pulsions aussi? On retrouve l'inceste, mais ça, c'est un autre niveau. Donc, en fait, voilà, il y a tout ça qui se joue. Et pendant ce temps, la mère, c'est là où moi, j'ai un avis qui diverge, c'est que la mère, elle dit « Oh là là, mais qu'as-tu fait, mon mari? Oh, notre pauvre fille qui était derrière. Oh, j'ai une jolie robe. Oh, j'ai une... » Et finalement, on retrouve la mère qui boit, mais qui dit rien, quoi. « Laisse faire. » Elle est dans la passivité du mental, c'est-à-dire qu'il laisse faire. Mais là où on va retrouver cette pureté dont je parlais au début, c'est qu'avec son cercle blanc, moi, c'est ça qui m'a frappée quand je l'ai écouté, c'est ce cercle blanc. Je me suis dit, mais c'est génial. Même quand il ne reste plus rien de rien, on a le cercle blanc. Alors là, ça, c'est magique. Ça, c'est magique dans le conte, c'est ce cercle blanc. Et il est blanc, il la protège. Il la protège de quoi ? De ne pas céder à cette folie, de ne pas céder au diable, de rester intègre, quoi qu'il lui en coûte à l'extérieur. Elle va rester intègre. Elle va rester droite dans ses bottes, et même si elle n'a plus ses mains, même si elle doit pleurer pour que ce sel la purifie, parce qu'on retrouve le sel, on retrouve le blanc, eh bien, elle va continuer, il ne lui reste rien, elle n'a plus qu'à s'en remettre à la providence, à faire confiance en la nature, en mère nature, puisque la mère est défectueuse. Le père est défectueux puisqu'il est concomitant avec le diable, et elle s'en remet à la providence de la nature, et ce sont les fruits qui vont la nourrir. Donc autant le pommier que le poirier, ce sont des arbres féminins qui donnent, maternels. Donc là, on est dans le maternel de la terre, hein, de la terre. Ben, ce Gaïa, ben, c'était pas actuel puisque c'est notre langage, mais voilà. Et là, moi, j'ai eu l'impression, parce que je l'ai raconté naturellement, je ne me suis pas autant posé de questions, moi, j'ai été beaucoup dans la nature, c'est la nature qui me raconte son histoire souvent, Et c'est cet arbre, c'est l'esprit de cet arbre qui va la nourrir, qui est blanc et éclairé par la lune. Pour moi, c'était l'arbre, voilà, qui représente la nature. Et elle va accepter ce chemin d'être dépouillée de tout, donc dépouillée aussi de son ego, d'être nue. C'est un sacré courage, ça, hein ? C'est un sacré courage. Donc, déjà, moi, quand j'entends ce conte, ça réveille mon petit courage à moi qui est des fois faibli drôlement. Et là, la parole qui m'a le plus touchée, c'est « Es-tu de ce monde ?» Et elle répond « J'étais de ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. » Et ça, ça me bouleverse. Ça veut dire que ça y est, elle a changé de niveau de conscience, elle est passée à autre chose et ça lui en a coûté les mains. Mais elle a fait le pari. Quel courage! J'aimerais être comme elle. Oh mon Dieu! Et alors, donc, du coup, elle a réussi à avoir cette acceptation de ne pouvoir rien faire. Les mains, c'est la créativité. Plus de créativité, plus de pouvoir d'action. Elle ne sait plus qui elle est. Elle sait juste ce qu'elle, dans quoi elle ne va pas pactiser. Et elle a l'aide de toute la nature. Ça, c'est fabuleux. C'est pour ça que ça me fait penser à Blanche-Neige qui se retrouve dans la nuit au milieu de la forêt, et tous les animaux vont être là pour l'aider. Donc, il y a ce côté où la nature peut être vraiment salvatrice, comme moi, elle a été pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien travailler les contes dans la nature. Et après tout ça, le roi, il devient prince parce qu'il était roi. Ça veut dire que son rôle, c'était de régner sur un royaume. Et quand il devient prince, c'est qu'il devient le héros, celui qui va passer à l'action pour acquérir des choses. Donc, évidemment, il va guerroyer. Je t'aime, je te quitte. Et puis, elle, donc, elle va se retrouver à la merci d'une belle-mère. Très gentille, très, très gentille, la belle-mère. Seulement, oh, il y a des messages qui arrivent qui ne sont pas bien, mais bon, je vais obéir quand même à mon fils, puisque c'est lui le roi. Donc, en fait, quand même, elle va la mettre dehors avec son fils. Donc, c'est ça. Alors là, moi, je reviens un peu plus social, où je me dis, ben voilà, elle quitte un déterminisme familial toxique. Et elle a bien fait, bravo, pour se remettre dans un autre contexte familial de ses beaux-parents, toxique de la même façon, mais différemment, plus gentiment, plus correct, plus poli, c'est le château. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de partir, et cette fois-ci, elle n'est plus toute seule. Elle a un petit à nourrir, mais elle était encore enfant, vous avez vu, elle était enfant. C'est pour moi, la première partie, c'est l'enfance. Deuxième partie, et c'est là où je rejoins complètement. C'est que là, ce qui m'a touchée quand j'ai cherché les versions, c'est cette version où elle arrive à la source, elle a soif, et plouf, le gamin, il tombe dans la source. Et là, elle dit, ah, il va mourir, c'est la panique, c'est question de vie ou de mort. Et apparaît cet être, je ne sais pas, pour moi, c'est un esprit de la nature, qui lui dit, d'un ton très... c'est comme ça, elle a réfléchi plus, quoi. Plonge tes mains et récupère ton enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle plonge ses mains, elle récupère son enfant et ses mains. Ça veut dire que pour sauver son enfant, elle a retrouvé ses mains. Alors moi, à l'époque, je venais d'avoir mon enfant et je me suis dit, on m'a dit, ouais, tu es conteuse avec un petit, seule à nourrir, ça va être compliqué. Eh bien, c'est lui qui m'a donné toute cette énergie pour surmonter tous les obstacles, parce que ce que je ne m'autorisais pas à le faire pour moi en tant que femme depuis 2000 ans qui s'est fait soumettre, malgré mon sale carafon dont la réputation n'est plus à faire, je n'arrivais pas à le faire, alors que j'ai réussi à le faire pour mon fils. Donc, ce que je n'arrivais pas à le faire pour moi, je le faisais pour lui. Donc, j'ai retrouvé des mains pour lui. Et ce n'était pas des mains d'argent. Lui, il lui avait donné des mains d'argent parce que c'est la convention. Donc, en fait, ça, cette version, je la trouve magique, quoi. Et donc, après, elle repart avec ses mains. Et là, elle va être prise de nouveau avec ses êtres de la nature dans une cabane où elle va se reconstruire, mais dans sa nature profonde, intime, puissante. Elle va redécouvrir sa puissance. Et le petit va être élevé dans la puissance. Donc, quand l'autre, qui revient de sa guerre, apprend... Non, mais l'autre, le mari, l'autre. Voilà. Non, parce que c'est le deuxième héros, l'autre héros. Il y a le pan féminin et le pan masculin. Donc, l'autre héros, quand il revient de guerroyer, puisque quand même, c'est dans un contexte où les hommes étaient conditionnés autant que nous, hein, mais dans des choses qui ne sont pas tellement mieux. Hein. Moi, je n'aurais pas été plus heureuse dans le conditionnement des hommes que celle que nous, on était. Eh bien, il va s'apercevoir que tout ça, ce n'est pas bon. Donc, le messager à chaque fois, pour moi, c'est le mental. Le mental, à travers nos déterminismes parentaux, il y a une information, et bien, il va tout transformer, tout mettre de travers, et à chaque fois, c'est jamais ce qu'il faut. Donc là, il se rend compte que son message n'a pas été reçu, que c'est par hasard sa mère au milieu, là, qui je sais pas quoi. Donc, en fait, pour moi, l'inceste, il est de ce côté-là aussi, du côté de la mère et le fils. Et il va dire, eh bien, mais cette femme, je l'aime. Donc, du coup, c'est le féminin qui commence à rentrer dans sa puissance, qui attire au loin le masculin qui doit retrouver sa puissance. C'est pour ça qu'il doit se déshabiller, se dévêtir de toutes les peaux sociales, conventionnelles, etc., pour redevenir la bête sauvage qu'il est, démuni de toute chose et suivre le même parcours, mais de façon différente, parce que lui doit se débarrasser de son déterminisme parental, incestueux ou je ne sais pas quoi, et retraverser pendant 7 ans. Alors moi, j'ai beaucoup étudié la symbolique des nombres par Claude Milleville, mais aussi j'ai fait du tarot, mais pas le tarot de Madame Irma, hein, la symbolique des tarots, avec aussi Jodorowsky et compagnie. Et donc le 3, c'est l'impératrice, c'est la naissance au début. Donc c'est ce qui est en train de naître, c'est la femme en devenir. Donc il lui faut 3 ans avant que le diable vienne la chercher parce qu'elle était trop petite fille. Et là, elle sera maturité juste ce qu'il faut pour avoir le meilleur. Hein. Donc, du coup, c'est là où elle va se protéger. Et puis, le 7, c'est un chiffre magique. Hein. C'est vraiment la victoire. C'est-à-dire, c'est tout le temps où il a fallu gravir des obstacles pour en avoir le fruit avant de passer à une deuxième étape et puis à une troisième étape. Et à chaque fois, on retrouve ce cycle de 7. Et donc, lui va être obligé pendant 7 ans de se reconquérir pour mériter l'amour de cette femme qui, dans plusieurs versions, voit très bien à la fin. Elle ne va pas lui sauter au cou en courant, mais elle le laisse venir pour voir qui il est. Elle espère, voilà. Et le petit avec son voile, moi, je trouve que c'est une très belle image. Il dit, mon père, bon, est aux cieux. Alors, moi, je ne l'ai pas pris comme le bon Dieu. Et aux cieux, ça veut dire c'est quelque chose, c'est le ciel, c'est beaucoup plus grand que toi là, être humain. Donc voilà, c'est ma version, hein, ça vaut ce que ça vaut. Et donc en entendant sa femme qui lui dit ah cet homme est réveillé, tu es réveillé mon fils, il reconnaît sa voix. Reconnaître la voix de quelqu'un, c'est fort quand même. Hein. La voix, c'est le souffle, c'est l'identité, c'est tout ça. Et il lui dit mais tu as des mains. Et là, elle va chercher dans cette version-là, hein, parce qu'il y en a 10 000, 480 quand même, hein, il y a des mains en argent. Donc, elle laisse tomber la créativité conventionnelle pour entrer dans sa vraie puissance. Et pour moi, elle n'a pas besoin d'être initiée au début parce qu'elle a déjà ça en elle. Elle est déjà traversée. Donc, tous ces obstacles dans son cercle lui permettent de faire une introspection pour qu'elle puisse révéler ses ressources profondes. Et c'est dans un état d'urgence qu'elle va pouvoir le faire. S'il n'y avait pas toute cette mise en scène, elle n'aurait eu peut-être jamais accès à tout ça. Donc ce diable si toxique qu'est le mental, finalement, va devenir l'initiateur, comme dans la Baba Yaga, elle va devenir l'initiatrice alors qu'elle est hyper... voilà. Donc là, c'est une initiation. Et alors, pour moi, c'est important ce deuxième mariage, pour les raisons que vous imaginez, c'est-à-dire que là, vraiment... Il y a une vraie femme face à un vrai homme qui vont pouvoir se mettre ensemble d'un commun accord et dans une liberté, une spécificité qui leur est propre. Donc, c'est vraiment une union entre, comme vous dites, hein, c'est à l'intérieur de soi-même où là, vraiment, on arrive dans l'état de non plus de l'enfance, non plus de la jeunesse et de l'adolescence, mais l'état d'adulte, mais dans le beau sens du terme, pas dans le sens « ah, c'est rabat-joie d'être adulte ». Au contraire, ça y est, j'assume mes responsabilités, je suis qui je suis et je peux aller vers mon destin. Donc, en fait, ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, ne me demandez pas qui l'a dite, mais elle est très belle, vous verrez, il n'y a pas besoin de savoir qui l'a dite. C'est « la pensée amène l'émotion amène la parole amène l'acte amène l'habitude et l'habitude amène le destin. » Et donc là, ce personnage-là est en train de créer son destin parce qu'elle a pris soin de ses pensées, ses émotions, tout ça, puisqu'elle n'a jamais cédé à la tentation du père, à la tentation du consumérisme, à la tentation d'être protégée parce qu'elle a peur de ci et de ça. Et on retrouve ce texte de Nelson Mandela qui est très puissant et qui nous... Donc voilà, c'est pour ça, je pense, que ce conte est si fort, et c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à le dire pendant 4 ans quand même, il a maturé. D'habitude, une grossesse, c'est 9 mois. Pourquoi c'est 4 ans? Je ne sais pas. Parce que j'avais sans doute... très très peur de à travers un conte être en lien avec la puissance. Et pourquoi il a dévasté toutes ces femmes dans mes stages? Parce qu'il y avait tout ça qui se joue, tous ces choix, tout ce courage, et je trouve que c'est une aventure exceptionnelle et en même temps qui est très loin de ce côté de femme soumise, etc. Justement, je rejoins ce que disait le monsieur ce matin. Dans son attention et sa disponibilité, elle est active. On dit être active passivement, mais elle est d'une activité extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle elle reste dans son intégrité à chaque fois, malgré tout ce qui lui arrive à l'extérieur. Voilà un petit peu le regard que j'en ai à travers l'expérience et surtout, je remercie beaucoup tous ces gens qui ont témoigné et qui m'ont permis de faire écho par rapport à ce que je vivais. C'est embrouillé, et je suis sûre que je, si je meurs dans 20 ans, je n'aurai encore rien compris à ce conte. Voilà. Parce qu'il est vraiment particulier, et qu'il est aussi bon pour le genre masculin que pour le genre féminin. Parce que de son côté, le genre masculin est en train de travailler de la même façon. Moi, mon fils a 22 ans. Il m'a fait écouter plein de podcasts sur la condition masculine. Et bien, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit, finalement, c'est pas terrible ce qu'on a vécu, mais eux non plus. Hein. Vous, c'est pas... Parce qu'il y a ce conditionnement, toujours être le plus fort, guerroyer, etc., qui est rentré dans les mœurs. Et là, je trouve que ce conte va remettre tout ça en question et nous amener vers une dimension que je crois qui est très difficile à appréhender, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, que de pas de temps en temps on peut en avoir une impression, et puis hop, c'est furtif. C'est peut-être ça le Graal, finalement, je ne sais pas. Mais bon, ça reste dans la chrétienté, mais on retrouve les symboles celtiques. Je passais à Némésis. Némésis, la déesse de la naissance, etc., qui est la déesse celtique... qui a donné le nom à Némosus, qui après ça a été changé, mais ça partait, les Romains ont mis Diane dessus de Némésis, mais on allait dans les forêts de mycocolliers, qui étaient des arbres sacrés, pour vénérer, c'était les femmes qui donnaient leurs cheveux, leurs bijoux, quand elles allaient devenir adolescentes, pour que Némésis les protège au moment de la... De, tous les états de femmes, c'est-à-dire fillettes, adolescentes, femmes, mères, et tout ça. Donc on retrouve ça. Et voilà. Voilà, en fait, ça n'a pas été si long que ça, ce que je devais dire. Ça tombe bien. Merci. Ça n'empêche pas des questions, si vous voulez.
Non. C'est juste par rapport.
Alors moi, je suis pas très douée en micro là. Il faut...
Et ma question, c'était, il faut que je regarde là. Voilà. Ma question, c'était sur quelle version tu t'es basée à la base, parce que par exemple quand tu parlais là, du père, tout ça, moi c'était parce que c'était dans Ring que c'était écrit comme ça. Est-ce que c'est Clarica Pinkola Estes? Est-ce que c'est une autre que t'as reçue? Voilà.
Parce que... Et c'est une version russe.
Attendez, Hélène. Il y a toujours
un temps de latence.
Non, je passe. Oui, ça se fait. Voilà.
Donc, par rapport aux versions, j'ai lu Clarissa Pinkola Est, où effectivement j'ai vu qu'elle mettait beaucoup son interprétation et elle rajoutait des choses dans son sens, mais c'était très intéressant parce que ça élargissait. Qu'est-ce que j'ai lu? Moi, j'ai beaucoup lu Marie-Louise von France, mais je suis là, je ne crois pas qu'elle en parle. Et j'ai vu une version russe où il y avait cette notion de plonger ses mains. Et c'était un esprit blanc, donc un contrepartie du diable qui lui proposait ça. Et à la fin, quand elle allait dans la forêt, il y a quand même la proposition du masculin bienveillant qui va faire contrepoids avec ce masculin toxique du départ. Et je trouvais que ce n'était pas patriarcal, mais c'était dans l'équilibre. En fait, pour résumer ma démarche, c'est un conte qui va chercher l'équilibre. Et donc, ça a mené l'équilibre. Voilà. Après, je ne te dirai pas la page ni les versions. J'ai fait beaucoup de travail, mais je ne sais plus d'où savoir. Voilà. Voilà.
Oui. Bah, moi, c'est une remarque, mais c'est vrai que.
Attends.
Mais c'est une remarque. C'est vrai que là, je trouve que ça résonne pas mal dans ce que tu dis du travail qui doit être fait d'un côté et de l'autre. Dans ce qui, dans l'actualité, ça résonne pas mal avec la déconstruction. En tout cas, moi, c'est comme ça en l'entendant. Je trouve que ça résonne dans le sens où d'un côté la fille elle va être confrontée à une défaillance ou en tout cas une impossibilité de sa famille à elle, et puis comme tu disais en fait, et même quand elle se déplace là par exemple au niveau des classes sociales mais aussi dans la famille de l'autre, il y a encore une autre fois une défaillance et la reconstruction d'une certaine manière elle se fait loin, elle se fait à l'écart. Et cette réconciliation, c'est un peu comme si elle était réinventée par ce nouveau couple qui finalement décide, mais d'une autre manière de se retrouver, là, l'initiative aussi de la fille aux mains coupées, qui du coup a ses mains qui ont poussé. Mais ça résonne beaucoup, je trouve, et je pense que ça peut beaucoup résonner parmi les adolescents, entre autres, qui sont en plein dans ces questionnements, c'est que la reconstruction, elle se fait à l'écart des adultes, entre guillemets, à l'écart de la société, dans une décision commune, dans la nature. Effectivement, il y a aussi l'enfant qui est là, mais c'était pour dire que voilà, il y a cette résonance-là entre toi, ce que tu utilisais comme le terme de travail, et le terme qui est aussi utilisé, qui est celui de la déconstruction, je trouve qu'il y a un écho qui est particulièrement intéressant. Moi, il me semble, en l'entendant comme ça, je l'entends plus du tout comme je l'entendais ce matin, cette histoire.
Ah, ouais.
Non, mais tu vois, ce matin, je me disais, bon, en fait, cette fille-là, c'est un peu comme une bille de flipper, elle va un peu à droite, à gauche, et puis finalement, c'est que des personnes masculines qui... Bon, elle est ballottée, quoi, y compris l'enfant qui est un enfant en mal. Mais là, je le portais de cette manière-là, je l'entends avec une autre résonance. Et c'est, ça ouvre de nouvelles portes qui, je trouve, qui sont particulièrement actuelles et qui posent des questions très actuelles. Enfin, voilà.
Et merci.
Alors, une minute.
Par rapport à ça, ce qui est très important de mon point de vue dans ce conte et qui m'a donné la clé, c'est que quand elle est dans la nature, bon, elle est entourée d'esprits bienveillants, c'est pas très qui c'est, et lui, il va devenir la bête, prendre en possession ses instincts, et ça, c'est très important, on peut pas être la moitié d'un être humain, un être humain, c'est aussi un animal à la base. Et il y a aussi tous les éléments, alors ça j'ai oublié de vous le dire parce que j'étais partie sur autre chose. L'eau, évidemment, c'est tout ce qui est l'ordre du sentiment. Et quand elle tombe l'enfant dans la source, elle tombe l'enfant dans la source des sentiments, dans ce qu'il y a de plus intime. Et à chaque fois que les messagers se font en boucaner, moi j'avais une version, alors je ne sais plus laquelle parce que je l'ai étudiée il y a 20 ans, donc je ne sais plus trop, où ce n'est pas des lettres. Parce que là, des lettres, c'est déjà comme l'ère industrielle, on passe par l'écrit. C'est que dans son rêve, le messager, bam, 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 on lui avait modifié le message qu'il devait dire. Il se réveillait, il était près de l'eau et ce n'était plus le même message. Et donc, en fait, c'était toujours près de l'eau. Donc, le diable se sert de l'eau. Et en même temps, c'est l'eau qui fait fuir le diable parce qu'avec ses larmes salées, il ne peut plus la toucher. Donc, cette eau est fondamentale. C'est le comme on disait, il y en a qui ont dit, de quoi on a le plus peur, c'est l'amour. L'eau, c'est lié à l'amour, c'est lié au sentiment. Juste, je voudrais finir avec ça. Et la nature, la forêt, les arbres, etc. Donc, un rôle terrestre. Donc, c'est un rôle maternant. Donc, en plus, on retrouve beaucoup d'arbres maternants. Donc, on est dans le maternel. Elle s'en remet au maternel universel. Et le ciel, mon père est dans les cieux. Ça ne veut pas dire peut-être le grand mon Dieu sur son nuage. Moi, j'en sais rien. Hein, mais peut-être ce ciel, hein, entre ciel et terre, comme l'arbre, où c'est plus grand que tout ça. Donc, il y a des dimensions. Ça va nous amener vers une autre dimension dont nous, on n'en a pas toujours conscience. On peut en avoir eu l'expérience grâce à la chance qu'on a eue et à cette merveille. Mais voilà, ça nous renseigne là-dessus. Et effectivement, la craie, c'est le blanc, mais c'est la pierre. La pierre, voilà, c'est encore lié à l'ossature de la terre. Hein. On dit que les rochers, ce sont les os de la terre. Donc, il y a quelque chose d'ancestral, archaïque. Et il y a aussi le fait de ne pas se laver, c'est de s'en remettre à quelque chose de plus animal aussi, même si les animaux sont propres, hein, mais voilà, de revenir à quelque chose de plus instinctif. Voilà. Oh,
merci beaucoup. Mes lèvres, elles sont tendues. Je
suis... Ça résonnait avec cette quête d'identité. Et la quête d'identité et l'eau, il y a ce côté miroir, réflexion.
Oui.
Que quand elle prend aussi son enfant qui tombe dans l'eau, il y a aussi cette réflexion, ça lui renvoie aussi cette image et peut-être aussi ce jeu spéculatif.
Ouais.
Voilà, c'était juste ça. Ben,
merci.
En tout cas, donc... Voilà, nous allons maintenant accueillir donc Claire Péricard et Françoise Barret qui participent à la commission égalité de la PAC et elles vont nous mentionner les travaux qui sont effectués au sein de la PAC. Je vous laisse la parole.
Alors,
Françoise et Claire, oui.
Oui, moi, je suis désolée, je suis en train d'essayer de me trouver mon image sur mon portable.
Oui, si tu peux le mettre. Alors, excusez-moi, Claire et Françoise. Il est où l'ordinateur? Ah oui, il faut l'ouvrir, s'il te plaît, Marc.
Claire, c'est pas un problème. Alors, si on ne voit pas ton image.
Deux minutes, on réenclenche le visio. Le rétroprojecteur et nous sommes bons. Je vous demande juste une minute ou deux.
Bon, apparemment, j'ai plus rien. C'est parfait au moment où je dois parler.
On t'entend très bien, Claire. On n'a pas besoin de ton image.
Par contre, il faut peut-être couper le micro de Marc.
Bon, je suis désolée de ne pas montrer ma trombine, mais enfin, ce n'est pas le plus important. J'ai un problème de caméra. Alors, ce qu'on voulait faire avec Françoise, puis il y a aussi Cécile Lacroix, qui est là. Nous sommes toutes les trois de la commission égalité donc de la PAC. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est la PAC, l'association professionnelle des artistes conteurs et conteuses. Nous avons rajouté, notre commission a fait rajouter et conteuse, parce que vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu que sur... 54 participants, il y avait à peu près 5 hommes. Donc, c'était important que les femmes soient représentées aussi dans cette association. Nous voulions juste vous donner envie d'aller voir. Bon, on arrive en fin de journée. Hein. Je sais que le Zoom toute la journée, c'est fatigant. Alors, je vais être assez succincte, mais c'est parce que sur le site, je vous mettrai la référence dans le chat, sur le site donc de l'APAC, vous tapez APA de ces comptes et vous trouverez, à la commission égalité, on a tout un tas de travaux qu'on a menés là-dessus, qui sont en lien avec quand même les séminaires du CMLO, autour de la femme conteuse, la femme dans le compte, les rôles stéréotypés, le père, la relation père-fils, mère-fils, enfin, tout ce dont on a parlé à propos de ce compte, nous l'avons fait sous plusieurs formes et il y a tous les comptes rendus. Donc, je vous invite vraiment à aller les lire, notamment d'ailleurs celui pour le prochain séminaire qui est sur l'ours. Eh bien, nous avons eu une intervention vous verrez dans un de nos colloques où on a, excusez-moi parce que je ne pensais pas du tout parler sans l'image, je suis un peu, voilà, on a un professeur de lettres qui a fait tout un travail sur la geste de l'ours à partir de Jean de l'ours. Donc, vous pourrez regarder et le trouver dans ce qui s'appelle héros-héroïne, distribution des rôles. Voilà, nous, on a fait 3 colloques depuis 2011, on travaille là-dessus, vous voyez, donc ça date. Et on a invité des universitaires, des anthropologues, sociologues, géographes, bibliothèques, enfin, tous ces gens qui s'intéressent à la fois au genre dans le domaine de l'art, c'est-à-dire du côté des femmes qui comptent, des artistes femmes, mais aussi au niveau du matériau compte. Donc, voilà, je vous y invite vraiment à y aller. Bon, j'avais noté plein de choses, mais je crois que je vais être assez rapide vu l'heure. Alors, on a aussi des témoignages dans ces comptes rendus de conteurs et conteuses qui nous disent comment ils ont abordé la question du féminin, du masculin, comment la nourrir et interroger et traverser leur travail, comme viennent de le faire les conteuses là cet après-midi sur la fille aux mains coupées. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Et après, entre nous, disons, quand je dis entre nous, c'est entre conteurs et conteuses, avec aussi Lionette d'ailleurs, qui était tout le temps présente de la grande oreille, nous avons réfléchi au rôle des pères dans les contes. Donc, vous verrez, c'est aussi ça s'intitule le rôle des pères. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ou comme je vous disais, on a regardé la relation père-mère, père-fille, père-fils. Donc, ça éclaire aussi pour notre conte d'aujourd'hui, où on parle de peau d'âme, Cendrillon, enfin tout ça. Et on a aussi fait un autre colloque sur héros-héroïnes, distribution des rôles. Voilà, en gros, c'est ça ce que je voulais vous présenter là tout de suite. Et Françoise va continuer, je reviendrai après sur une expérience particulière sur l'oralité inclusive.
Oui, donc ce matériau, il est à disposition. Et Claire, je pense que tu peux donner quand même 2-3 exemples que tu avais notés. Voilà, on m'a mis un petit message comme quoi on avait notre temps dédié d'une demi-heure. Donc, tu peux dire ce que tu avais préparé. Je pense que tu devais donner quelques exemples sur… Vous m'entendez ? Claire, tu m'entends ?
Oui, on m'entend là.
Oui, mais donne 2-3 exemples quand même de ce qu'il y a dans les.
D'accord, je vais donner des exemples. On m'entend là?
Oui, tout à fait.
Bon, et bien par exemple, dans les 2 colloques sur la femme conteuse et la femme dans le conte, on a eu toute des interventions différentes sur qui comptait. Il y a une femme qui Nadine Jasmin, qui est spécialiste sur les questions d'égalité femmes-hommes. Pour elle, elle disait qu'il y avait un espèce de mythe féminin sur la transmission par les nourrices. Par contre, il y a une autre femme anthropologue qui dit, elle, que c'était les nourrices, les femmes paysannes et celles qui soignaient. Et Nicole Belmont, qui est anthropologue, donc, elle nous disait que pour elle, elle pensait que les femmes n'avaient pas beaucoup de temps parce qu'elles étaient prises dans tous les travaux à faire. Et que lors des veillées, il y avait aussi des hommes qui comptaient, même plutôt des hommes. Enfin, vous voyez, c'est pour vous donner une idée que dans ces comptes rendus, il y a des points de vue différents qui nourrissent un petit peu. Voilà, et c'est très développé. Hein. Là, je vous fais vraiment une synthèse. Et puis, par exemple, en ce qui concerne la figure de la femme dans le, contes traditionnels, sa symbolique, eh bien, il y a plein de questions qui sont posées. Par exemple, pourquoi le temps a raboté justement une féminité qui était plutôt rayonnante dans certains contes? Comment la faire renaître? Comment la laisser s'épanouir? Et avec des hypothèses qui ont été mises, que les femmes sont plutôt du côté de la métamorphose. On a même eu la femme est transgenre, animale, végétale, minérale, etc. On a aussi parlé des figures de femmes dans les contes merveilleux qui peuvent être les expressions des peurs des hommes et de la société de l'époque, parce que souvent la femme est présentée exclusivement aux deux âges de la vie qui inquiètent les hommes, la puberté ou la vieillesse, enfin des choses comme ça. Et il y a aussi, je voulais vous dire, quand on a travaillé sur les stéréotypes masculins-féminins dans nos contes, on a fait quelque chose d'intéressant, un brainstorming, où tout le monde a mis les adjectifs, les formules, les situations qui lui évoquaient le masculin féminin dans les contes. Et là, il y a des thèmes qui se sont dégagés. Et alors, vous pourrez les voir dans le détail, mais c'est très intéressant parce qu'il y a eu des tableaux comparatifs entre les mots masculin féminin. Et par exemple, par rapport à ce dont on a parlé aujourd'hui, eh bien, on a travaillé sur le courage. Et on s'est aperçu que le courage pour les femmes, même s'il n'est pas physique, eh bien, c'est le courage d'affronter le danger et c'est plutôt le courage aussi de supporter son sort, de s'en sortir, comme l'a dit la conteuse précédente. C'est une nécessité pour les filles, le courage. C'est vu comme une vertu morale et une force psychique. Et que le courage masculin, qui serait d'une autre nature, plutôt une perspective de conquête ou de neutraliser un monstre, un obstacle, qui serait une vertu physique, eh bien, à des moments, ce côté-là, ces deux côtés-là se mêlent aussi. Voilà, c'est pour vous donner envie d'aller lire tout ça et d'aller voir tout ça. Et évidemment qu'on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on raconte, nous, en 2000. Enfin, là, à l'époque, c'est 2017, mais c'est valable pour 2023. Et c'est un peu la question qu'on se pose depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne peut pas raconter? Comment on les redigère, nous, tout en gardant, comme a dit ce matin Marc, la structure et la problématique, ça c'est très important évidemment. Et voilà, et on s'est dit aussi, comme ça a été dit, que mettre en valeur les différentes versions, c'est très important dans un travail parce que on peut trouver des choses qui sont fortes, qui n'enlèvent pas l'ossature du conte, mais qui sont plus, entre guillemets, peut-être acceptables. Dans le sens de toutes les questions qui sont posées aujourd'hui, en effet, sur le genre, le masculin, le féminin, les schémas traditionnels, patriarcaux, etc. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour ça.
Merci Claire. Alors, je prends un peu le relais parce que c'est vrai que nous, en tant que conteuses et conteurs, on s'est aussi posé la question de la manière dont on raconte et comment... On parle beaucoup d'écriture inclusive et comment on peut aussi travailler sur l'oralité inclusive, c'est-à-dire comment utiliser des mots épicènes, c'est-à-dire qui sont neutres, comment parler, par exemple, quand il y a un fils ou une fille dans une histoire, souvent c'est souvent un petit garçon, pourquoi pas parler de l'enfant, par exemple, qui permet d'ouvrir l'imaginaire en fait, du spectateur, de dire il ou elle, ou quand il y a une autorité parentale, souvent dans les contes, comme ils sont le reflet d'une époque, c'est le père qui a une autorité, pourquoi pas dire le père et la mère qui donnent l'instruction ou voilà, toutes ces questions-là, on les a travaillées en atelier et on a eu aussi une conférence d'Eliane Viennot, que vous connaissez peut-être, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur la question du matrimoine. Son étudiante Aurore Evin qui a fait remonter le terme matrimoine et le terme autrice. Et donc, elle a travaillé beaucoup sur la question de la langue. Donc, pour resituer les choses, c'est vrai que la langue a été, le latin a été la langue officielle en France jusqu'au XVIe siècle. Et donc, au moment de la création de l'Académie française, ces messieurs ont décidé de nobler la langue, d'en faire une langue noble et donc de la viriliser, c'est-à-dire de masculiniser la langue française. Et donc Éliane Vuillénaud nous faisait remarquer qu'en fait, avant cette instruction du masculin l'emporte sur le féminin, la langue française a une très grande richesse de capacité de transformation. Elle est très genrée de toute façon par rapport à d'autres langues. Le neutre n'existe pas en français, donc le masculin n'est pas neutre. Donc, elle dit par exemple, il y a plutôt de parler des droits de l'homme, on peut parler des droits humains, particulièrement en oralité, on peut, par rapport au masculin qui l'emporte sur le féminin, ben que ce soit par exemple la dernière personne nommée qui va donner le genre ou la majorité. Que je vous donne un exemple, les garçons et les filles jouent dans la cour, il faudrait trouver un adjectif, je ne l'ai pas préparé, mais enfin, en tous les cas, de passer au féminin s'il y a plus de filles que de garçons, ou des choses comme ça. En tous les cas, il y a beaucoup de possibilités dans la langue française. Voilà, par exemple, autrefois, on disait « bon, bah, tu es malade », bah oui, je la suis, et pas « je le suis ». C'est vraiment l'Académie française qui a imposé le masculin comme ça. Voilà, donc ça, c'est des questions qu'on essaye de se poser et d'essayer d'enrichir par nos réflexions, chacun et chacune, notre pratique. Alors, une chose aussi qu'on a fait, qui nous paraissait extrêmement importante, puisque, en fait, ce questionnement au sein de la PAC est venu aussi en concomitance avec la naissance du mouvement HF, qui milite pour l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant. Donc, en 2013, on a décidé de faire une étude. Claire le faisait remarquer, on est 50 femmes et 4 hommes là présents aujourd'hui. On est beaucoup plus nombreuses en tant que conteuses que de conteurs. Donc, on a voulu regarder un petit peu quels étaient les chiffres dans la programmation. Et sur le lien que je viens de préparer et de vous envoyer là, de la commission égalité de la PAC, vous pouvez retrouver l'étude qui a été faite en 2013. Sur le conte par Marion Féréca, qui montre que dans le conte, on est dans les mêmes chiffres que dans le spectacle vivant de manière générale, c'est-à-dire que si on est à peu près 70% de conteuses professionnelles, à peu près identifiées, on est 50-50 dans les programmations, et surtout, on est extrêmement présente dans le très jeune public, quasiment à 100%, mais dès qu'on arrive à 7 ans, en fait, petit à petit, il y a de plus en plus d'hommes programmés. Et quand on arrive dans les programmations prestigieuses, eh bien, on arrive à des chiffres où on est 30% de femmes et 70% d'hommes. Voilà. Alors qu'en fait, on est beaucoup plus nombreuses. C'est-à-dire, il y a vraiment là, dans ces chiffres, la double peine, puisqu'on n'est pas 50-50% d'hommes et de femmes conteuses. On est beaucoup plus nombreuses de conteuses, donc on devrait être beaucoup plus présentes dans les programmations. Voilà, les chiffres continuent à être étudiés par l'association HF, par aussi l'Observatoire de l'égalité du ministère, qui montre que ça avance très, 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 très doucement. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a à peu près 62% de filles qui sortent des écoles nationales d'art, elles sont représentées à peu près à 30% dans la profession. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition énorme des filles qui sortent des écoles, qui sont diplômées, c'est des diplômées supérieures, hein, ce n'est pas des petits diplômes du conservatoire de quartier, c'est des écoles nationales d'art. Elles sont diplômées et elles disparaissent très vite à cause de tous ces empêchements qu'on peut avoir à tous les niveaux et sur lesquels nous, on essaye aussi de se questionner. Voilà, Claire, je crois qu'il faut que je te repasse la parole sur notre petit programme qu'on s'était fait.
Moi, c'était juste dire que cette histoire d'oralité inclusive, bon, ça peut paraître rébarbatif, mais on a fait donc une journée d'essai entre nous, conteurs et conteuses. Il y avait d'ailleurs Cécile qui était là, qui est avec nous. Et ça a été très, très intéressant parce que, bon, ben, on avait choisi des contes qu'on a l'habitude de raconter. Et on a essayé, les autres écoutaient, et on a essayé de voir comment on pouvait raconter donc, ce conte qu'on avait l'habitude de raconter en faisant attention à cette fameuse oralité inclusive. l'a dit François, c'est-à-dire à être attentif à inclure les personnages féminins, bien sûr, et alors à ne pas véhiculer trop de stéréotypes, ça bien sûr, mais on a chacun relevé les procédés qu'on avait mis en place pour arriver à ça, ou au contraire les omissions volontaires ou involontaires parce qu'on n'avait pas, on n'y arrivait pas, voilà. Et donc ça a été passionnant pour nous parce qu'on a vu que ça enrichissait notre parole conteuse aussi, et qu'on a, compris, et de réfléchir aussi aux actions et aux fonctions symboliques, comme on vient de le faire, et réelles sur un conte, quoi, de voir quel impact ça avait sur le public qui nous écoute. Et on en a quand même conclu qu'il ne faut pas du tout s'empêcher de dire un conte en pensant, comme l'a dit une conteuse, c'est un conte sexiste ou il y a des situations sexistes. Oui, on sait que les contes ont été faits dans un système patriarcal de la société, donc, et on s'est dit que ça ne servait à rien de gommer ces schémas, mais plutôt de les rendre conscients, et que c'était ça qui était important. Et après, c'est à chaque conteur-conteuse de voir comment il se situe, comment il dit les choses, justement. Et voilà, donc ça, c'est important. Et il y a une conteuse qui a dit qu'on pouvait aussi se servir, elle appelait ça notre licence poétique. Alors, elle a donné des… Et d'ailleurs, c'est une femme qui est italienne aussi, hein, la double langue. Et alors, elle disait, par exemple, bon, bah, on peut dire le poisson, la poissonne, mais le melon, la melonne. Et on peut inventer, on a un imaginaire. On peut aussi, nous, en tant que… porteur de parole, voilà, inventer des choses. Bon, et un exemple simplement, par exemple, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en avant la sorcière? Ben, on peut dire qu'elle est moche, méchante, vieille, hystérique et qu'elle fait des plantes. On peut aussi dire, on peut aussi faire passer que la sorcière, elle a des pouvoirs acquis, que c'est un être naturel qui a accès au monde surnaturel, que dans la mythologie grecque, ben, ce sont des magiciennes. La fée, elle peut être bonne, jeune, gentille, douce, avec sa baguette magique. Mais elle peut aussi, on peut aussi la porter avec des pouvoirs innés, comme la magie, que c'est un être surnaturel qui a accès au monde naturel, les fées, les esprits de les fontaines, etc. Et que dans la mythologie, les fées sont les nymphes. Enfin voilà, c'est pour vous donner un peu sur quoi on a travaillé. Et on s'est dit que c'était un chantier passionnant, qu'il fallait qu'on continue. Et on invite tous les conteurs et conteuses à le faire. Voilà.
Oui, donc d'ailleurs, la commission égalité, voilà, on est membre de la PAC, mais quand on fait des actions comme ça, comme ces ateliers, ils sont ouverts à tous et à toutes. Et donc, il y a toujours moyen, si vous avez envie d'être informé, bon, déjà de vous abonner à la newsletter de la PAC, ça vous permettra d'avoir les infos au fur et à mesure. Mais si vous voulez spécifiquement être informé sur ce qu'on fait, ce qui est pas mal, c'est Claire, peut-être tu peux donner ton mail si des personnes sont spécifiquement intéressées de suivre les activités de notre D'accord. commission. Tu le mets dans le chat. Voilà. Et donc, on voulait conclure sur nos activités actuellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est posé la question du matrimoine oral, c'est-à-dire de se dire, mais voilà, les femmes ont transmis des histoires. C'est vrai qu'on est dans un monde patriarcal où c'est souvent des hommes qui ont transcrit les histoires, mais derrière cette parole transcrite, écrite dans les livres, il y a souvent des femmes, et quelle est la spécificité de cette parole? Et donc, on a fait un colloque, dont là aussi, vous pouvez retrouver la transcription complète sur la commission égalité, là, le lien que je vous ai mis dans le chat, avec Jean-Loïc Lequellec, et on lui a posé cette question. Jean-Loïc Lequellec, qui est anthropologue, chercheur, qui avait l'énorme dictionnaire sur la mythologie, etc. Et donc, il nous a dit, mais oui, c'est très intéressant tout ça, mais, pour retrouver la parole des femmes, souvent ce sont des anthropologues, des femmes anthropologues qui ont pu avoir accès, puisque les sociétés traditionnelles sont très genrées, c'est-à-dire il y a le clan des hommes, les clans des femmes, et comme souvent les anthropologues sont des femmes, des hommes plutôt, quand ils vont auprès de populations faire du collectage, ils vont avoir la parole des hommes, et c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir accès à la parole des femmes et aux récits que se racontent les femmes entre elles, parce qu'elles se racontent aussi des histoires que les hommes n'entendent pas dans certaines sociétés. C'est vraiment très, 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 très séparé. Voilà. Et donc, il faut aller chercher la parole et les travaux de ces anthropologues qui sont souvent invisibilisés. Parce que, comme dans l'histoire, bah, les femmes sont invisibilisées. D'abord, elles ne sont pas republiées. Parfois, elles ont fait des thèses magnifiques, mais les thèses, elles ne sont pas publiées. Donc, elles sont dans des coffres quelque part et on ne les a pas. Et donc, on a décidé d'ouvrir un chantier sur, pour essayer de remettre en valeur, rechercher les paroles de ces femmes et remettre en valeur aussi des conteuses et des femmes conteuses traditionnelles qui ont pu être collectées, mais qu'on a oubliées, qui sont souvent derrière les hommes. Voilà, donc je donnerai simplement aussi là quelques exemples. Il nous a parlé de Glafira Makarevna Vassilievic qui a collecté les évêques. C'est une Russe, donc là, qui a fait un travail énorme sur la langue. Là, on en parle dans un article de La Grande Oreille. Je vous mettrai tout ça en lien après. Il nous a parlé par exemple aussi de Lily Grove, qui est l'épouse de James Fraser. James Fraser, donc le rameau d'or, et il n'aurait jamais pu travailler sans sa femme qui était d'origine alsacienne et donc qui lui a servi de traductrice, d'interprète, et de secrétaire pendant toute sa vie. Mais Lily Grove, personne n'en parle, mais ils ont vraiment travaillé en couple. Dina Dreyfus, qui est la première femme de Claude Lévi-Strauss, avec laquelle il a fait tous ses terrains, les premiers terrains au Brésil, qui a pu avoir accès justement aux paroles féminines et qui a permis de mettre en place la pensée de Lévi-Strauss, mais qui ne cite absolument pas dans Triste Tropique. Voilà, donc on pourrait faire des listes d'exemples comme ça. Nous, on a travaillé, donc là, on a décidé de travailler avec La Grande Oreille pour mettre en valeur ces femmes et pouvoir les revisibiliser, de faire des articles avec La Grande Oreille. Donc, dans chaque numéro de La Grande Oreille, il y aura un article sur certaines de ces femmes. Donc, le dernier numéro, on a eu un article sur Nanette Lévesque, qui est donc cette conteuse qui est née en 1803 et qui était totalement, dont le répertoire complet a été collecté par Victor Schmidt. Donc, on a fait un article sur elle. Le prochain numéro, il y aura sur Alice Taverne, qui est une collecteuse folkloriste à Ambières, dans la Loire aussi, qui a fait un musée magnifique, où elle a fait beaucoup de collectages sur le folklore et les traditions. Le prochain numéro, il y aura aussi un autre numéro sur les Sœurs Nardales, Jeanne et Paulette, qui ont été philosophes et écrivaines et qui ont rassemblé autour d'elle Aimé Césaire, Senghor, Damas, et qui ont été les instigatrices de ce grand concept de la négritude. Voilà. Donc, ce travail, on le met en chantier actuellement. Il est ouvert aussi. Et puis, on va faire donc un colloque de 2 jours le 19 et le 20 octobre à Paris, à la médiathèque Françoise Sagan, où il y aura une journée de table ronde et d'ateliers et une journée aussi de formation à Wikipédia, puisqu'on essaye petit à petit aussi de faire remonter ces femmes dans cette grande encyclopédie collaborative. Mais c'est là aussi, c'est une serpente qui se mord la queue, puisque pour pouvoir avoir une fiche sur Wikipédia, il faut avoir des mentions dans des articles nationaux, être cité plusieurs fois. Et donc, comme les femmes sont invisibilisées, c'est pour ça aussi qu'on fait ces articles dans La Grande Oreille, pour que petit à petit, on ait ces références qui permettent à ces femmes d'avoir leur fiche sur Wikipédia. Voilà, on a essayé d'être rapide avec Claire. Peut-être vous avez quelques questions. Je vais vous mettre en lien un fichier dans lequel il y a un peu tout ce que j'ai dit et d'autres références que vous pourrez explorer.
On vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Marc, tu enlèves la boîte de nuit. Alors, non, c'est bien. Il ne tente. C'est bon. On ne te voit pas. C'est pas grave.
J'ai cru comprendre que c'était le 19 et le 20 octobre, le prochain colloque. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut être invité à... J'en prends pas.
Oui, c'est-à-dire que on va avoir une prochaine réunion de travail par Zoom. J'ai fermé le fichier. Claire, tu as la date de la réunion par Zoom?
Je vais vous le dire, attendez.
Et donc, envoyez votre mail à Claire, qui rassemble, qui fait la mail list des gens qui sont invités à nos réunions. Et sinon, après, les informations, elles sont régulièrement données sur la newsletter de la PAC.
Je cherche. Ça sera le 7 mars. Notre prochaine réunion sur les femmes anthropologues de 11h à 13h.
Voilà, je viens de partager un fichier où j'avais pris plein de petites notes et des liens que je vous ai cités avec les numéros aussi de la Grande Oreille où il y a eu des articles qui relayent aussi ce qu'on a pu faire.
Merci bien en tout cas pour vos interventions et les liens envoyés. Donc, je donnerai à tous ceux qui sont en présentiel. Nous allons conclure cette journée. Marc, je te laisse la parole.
On nous demande toujours de manipuler un sang extrêmement difficile, hein, synthèse, il est facile.
si tu veux.
On quitte le sujet comme ça. Donc, je pense que on est tous.
Non, il faut qu'on enclenche ton micro et j'arrive pas. Oh, si, c'est bon.
Ouais, j'ai remis mon micro de mon côté, c'est bon.
Je coupe le son, c'est bon. C'est bon.
Oui, donc on a vu depuis ce matin beaucoup de choses sur la fille au main coupé. On a soulevé plein de questions sur la relation masculin-féminin. Donc c'était évident que là on a eu des points de vue en plus très différents, hein, entre le savant, le poète, l'artiste. Et... voilà. Donc c'est évident que quelque part tout ça c'est un matériau qui est extrêmement riche et qui pour moi ne peut pas être analysé là dans l'immédiat. C'est un espace, hein, ce travail de séminaire, c'est un espace qui va se faire dans le temps. Comme on l'a fait la dernière fois, moi je vous invite à envoyer vos réactions. Envoyer d'autres questions qui peuvent venir dans l'après-coup. On essaiera de voir comment on peut mettre en discussion. Parce que c'est. Je crois que la part de présentiel, la part de Zoom, etc., qu'on a ici, c'est plus pour solliciter la réflexion et vous mettre en travail que d'aboutir sur un travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, on ne fait pas un colloque de recherche, on fait des conférences, hein, c'est autre chose. Donc, on est plutôt là pour essayer de démarrer un travail de réflexion. Donc, si vous avez des retours, n'hésitez pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous les envoyez à Isabelle qui me les fait suivre. Ou on arrivera toujours à trouver le moyen de faire ça. Et surtout, ça vient alimenter petit à petit, pour moi, la matière qui sera surtout à restituer pendant les rencontres. C'est-à-dire que pour moi, le compte-rendu de recherche, il est à poser pendant les rencontres. Donc, on aura, oui, le 23, je crois, hein, septembre. 23, 24 septembre, voilà. Donc, à partir de là, nous, ça nous sera du mois de juin jusqu'au mois de septembre pour travailler vraiment sur une synthèse. Et puis, pour ceux qui en ont envie, on vous mettra en collaboration sur cette synthèse. Hein. Voilà, le travail des collectifs, il n'est pas qu'une personne. Et à partir de là, de voir aussi, au fur et à mesure qu'on va arriver à trouver des hypothèses relativement importantes ou intéressantes, de voir quelles sont les personnes qui peuvent venir y répondre. Comment on peut encore inviter donc, des gens à venir ou confirmer ou infirmer les hypothèses qu'on a pu mettre en place à ce niveau-là. Hein, voilà. Donc, les outils vont se mettre en place doucement. Hein, c'est évident que là, on n'a pas encore l'outillage complet. Moi, le tableau que je vous ai donné ce matin, il est en pleine élaboration. Donc, pareil, c'est des choses qui vont se mettre en route. Les comptes rendus devraient se cumuler. Vous devriez les avoir disponibles logiquement sur le site. Dès que nos problèmes techniques site vont être réglés, c'est en cours. Vous avez la disponibilité très rapidement, je pense, l'ensemble des enregistrements Zoom, hein, donc ça vous permet en même temps, peut-être pas de tout reprendre, mais d'avoir peut-être des moments que vous avez envie de réanalyser parce qu'il y a des choses qui vous ont touché. Donc l'outil est plutôt là en ce moment, il est dans un espace de... Oui, un espace où on demande aux gens... Quand on s'inscrit sur un séminaire, normalement, ce n'est pas pour écouter, c'est pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour être collaborateur. Hein. Oui, par contre, Yacine.
Est-ce qu'il y aurait
des
choses qui pourraient faire
oui.
Un peu comme un type de travail collaboratif.
Des pistes, là je vois par exemple sur le tableau d'analyse. Est-ce qu'il y a des. Moi j'ai pas mal de temps, pour l'instant je ne fais pas beaucoup de spectacles, je les prépare. Mais du coup, si jamais il y a des choses oui, à lire, à relever.
Le tableau collaboratif, ce qui me paraît intéressant, oui. C'est que quelque part, moi, j'ai mis des critères un peu comme ça rapidement à la base. C'est des critères qui sont tous à revoir. Hein, Voilà, mais quels sont les critères qu'il faut retenir pour qu'on dise point d'analyse? C'est on sent dans les comptes chacun de ces critères, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il ne résonne pas? Ok. Hein? Voilà, ça, c'est le genre de choses. Vous pouvez me faire des propositions, vous pouvez, à terme, moi, je ne suis pas à ton contraire. Hein? Voilà. Je pense que vous pouvez en même temps, voilà, mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est la même chose qu'une fois. Moi, j'ai fait un travail, par exemple, le comparatif relativement précis sur 10 versions de la fille d'un coupé. Okay. Donc, je vous enverrai ce tableau. Je vais créer mes résumés sans lien, mais moi, ce que j'attends de vous, c'est derrière, voilà, est-ce que moi, j'ai une autre version que j'ai envie d'en goûter? Est-ce que c'est un autre...
Marc, on ne t'entend pas.
Donc, tout ça, c'est autant de... Oui, autant de... Vous avez des bouquins qui vous paraissent, des articles qui vous paraissent importants, des...
Mon micro, Marc, s'il te plaît.
Oh, il est... Ah non, il est fermé.
Eh bien, j'arrive pas à le réenclencher.
Oui, donc... Moi, ce qui me paraît important, c'est ça, c'est que quelque part, on puisse se mettre en route dans un travail collectif aussi, à la fois constituer une matière qui sera vraiment crédible, parce que cette matière, elle est complexe. Hein, moi, je suis toujours effaré quand on va avoir un compte merveilleux de voir tout le travail qui est fait derrière et tout le nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Quoi. C'est toujours assez... Preuve que ce n'est pas non plus négligeable aujourd'hui dans le travail.
Que quelque part en France,
le gros problème, c'est qu'on ne sait pas travailler en communauté. Ça, c'est le gros souci. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui sont plus côté analyse, il y a des gens qui sont plus côté thérapie, d'autres qui sont plus côté chercheurs, d'autres qui sont plus côté poètes. Tout ça, c'est des éléments qui, pour moi, sont autant de regards valables, mais qu'il faut arriver à exprimer au moment donné. On doit l'avoir dans la matière. C'est ça qui est important.
Marc, si tu veux bien couper ton micro.
Donc, j'arrête mon micro.
Oui, merci.
Oui, alors, moi, j'ai juste une question. Est-ce que, puisqu'on parle de travail comme un ouverture, est-ce que pour éviter de se disperser, on reste sur la fille ou la poupée? Ou est-ce qu'on peut ouvrir sur d'autres comptes d'initiation féminine?
On a volontairement limité.
Voilà, d'accord. Parce que j'avais...
179 qui me
comptent. Oui, non, mais c'est une question de méthodologie.
C'est ce qu'on avait posé comme dans
On avait fait un premier document dans lequel je pointais un peu les règles. Je disais que si un autre compte vient éclairer celui-là, mais il faudra le ramener à celui-là. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 comptes à analyser, c'est déjà énorme. La prochaine fois, on est avec notre monstre sur l'initiation masculine, Jean de Lourdes, c'est un sacré chantier. On touche là, par exemple, à quelque chose qui est de l'ordre du mythe, autant que du conte. On est dans quelque chose de beaucoup plus puissant encore. Donc tout ça, moi, je pense qu'il vaut mieux se limiter pour ne pas se perdre. C'est surtout ça. Voilà. Donc moi j'ai pas grand-chose de plus à dire pour ce soir, si ce n'est de vous remercier en tous les cas de bien vouloir participer à ce chantier. Voilà, c'est pas rien non plus. Et puis moi je pense que là déjà avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on a une matière énorme. Bon, il nous reste, on a la chance là, c'est le 31 mars. Donc on a plus de 40 jours pour faire le compte rendu et puis travailler sur la mise en préparation de l'autre. Donc c'est bien, ça va nous laisser du temps. Voilà, mais n'hésitez pas en tous les cas d'envoyer des choses, d'envoyer du travail, des réflexions, des réactions, que c'est ce qui va faire avancer. Hein. Ouais. Oui. Ça, je pense que c'est Ambre qui pourra peut-être vous répondre. On est en train de voir avec notre fournisseur de site d'aménager une page qui sera uniquement réservée donc, aux gens qui participent, dans lesquelles on pourra partager, remettre à jour et mettre des choses en place. Hein, voilà. Oui. En tous les cas, l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à la matière partagée. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Okay. Moi, pour moi, en tous les cas, l'objectif de ce colloque, c'est qu'on puisse remettre en intelligence cette matière face à un tout public, là, qui, quelque part, on le voit bien, ne connaît que les stéréotypes du conte, ne connaît pas le conte. Donc, on a un gros travail qui est fait sur le plan artistique, par exemple, mais sur la matière en tant que telle, sur le répertoire, il y a une ignorance extrêmement forte de ce qu'est le conte. On peut pas aller dans la rue, prenez trois personnes, vous allez voir. Vous allez avoir tous les Walt Disney et grands stéréotypes, Perrault, Grimm au mieux. Voilà. Bon, mais je crois qu'après, pour beaucoup, on va se retrouver pour mettre aux oreilles dans une écoute d'un grand monsieur du conte avec Michel Hindenock. Hein. Voilà. Petit moment de plaisir en prévision. Donc, bon repos d'ici là. Et puis, une fois encore, merci.
Merci. Merci à tous, à bientôt.
Ouais, c'est intéressant parce que